Chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle saison de L'écume des pages, l'émission sur Transistor qui part à la rencontre des amoureux de l'écriture. En notre compagnie, venez découvrir, partager et aimer le monde du livre, ou plutôt devrais-je dire les mondes du livre, celui des auteurs, mais aussi des éditeurs, des libraires et des événements qui le mettent à l'honneur. Sans oublier, bien entendu, les lecteurs, tous ceux ayant un jour été happés par un livre, une BD, un roman, et en sont sortis transformés. Ici, on parlera littérature, bien sûr, mais aussi théâtre et manifestations culturelles et artistiques au gré des événements qui rythment la vie lyonnaise. Et pour ce premier numéro, nous allons partir aux côtés de Mathias Soubise à la rencontre de Diane Meur autour de son dernier roman, La carte de Mendelssohn. Bonne écoute à tous.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
La carte des Mendelssohn n'est pas vraiment un roman familial, ni un roman historique, ni un roman géographique. Mais c'est plutôt le roman d'un écrivain qui enquête et écrit sur une famille et ses ramifications nombreuses, en s'y perdant souvent. Diane Meur nous embarque avec elle dans son voyage, car il s'agit véritablement d'un voyage, dans l'arbre généalogique de la famille Mendelssohn, de Moses, le philosophe juif des Lumières, à Félix, le compositeur romantique, en passant par Abraham, fils du premier et père du second, banquier médiocre aux velléités artistiques. Il y a aussi Dorothea, la fille de Moses, la fille chérie qui a rompu avec sa famille. Et toutes les branches, plus ou moins éloignées, plus ou moins connues, d'une famille qui finit par ne plus vraiment en former une. J'ai rencontré Diane Meur dans son hôtel quand elle est passée par Lyon, et elle est revenue avec moi sur la confrontation d'un écrivain face à un sujet tentaculaire qui la dépasse, et aussi sur la carte géographique qu'elle en a tirée et qu'elle a tracée armée d'une paire de ciseaux et de colle, afin de rendre présent ce réseau d'êtres humains, ces nœuds complexes entre l'infiniment petit et l'infiniment grand.
Au commencement, il y avait un homme. Eh bien non. Au commencement, il n'y a jamais un homme, ni une femme d'ailleurs, ni même un homme et une femme, pas plus qu'il n'y eut un premier jour et une première nuit. Ce sont des multitudes d'ancêtres dont le nom s'est perdu, de plus en plus nombreux et incertains à mesure qu'on remonte, si bien qu'on en arrive à ce constat déroutant pour les grands gosses que nous sommes. Dans ce domaine, il n'y a pas de commencement.
Votre roman est la carte des Mendelssohn. Et donc, ma première question, ce serait de savoir comment vous définiriez le genre de roman que vous avez écrit, un roman géographique, généalogique, historique, et comment vous faites du lien entre... Parce que du coup, votre roman peut se lire de différentes façons.
Et en fait, pour moi, je le définirais comme un roman auto-fictionnel d'un auteur qui essaye, et ne parvient pas à créer un roman, une saga familiale sur la famille Mendelssohn. C'est un petit peu le point de départ que j'ai complètement laissé en route. Mais c'est ça, je pense que ça rassemble tous les... Alors c'est de l'autofiction, d'une certaine façon, puisque c'est le récit d'un roman en train de se faire, avec ses conditions de travail, son contexte. Et il y a aussi un aspect roman en miroir, puisque ce faisant, je raconte quand même l'histoire des Mendelssohn, mais réfléchi à travers une vitre. Quoi, qui est...
Oui, parce qu'il y a un auteur qui revient souvent, c'est Thomas Mann.
Thomas Mann, Perec, Edmar Glissant.
Non, parce que vous parliez de romans de la... Le roman d'une famille, c'est vrai que Thomas Mann, c'est la référence qui vient. Et finalement, ne pas faire comme Thomas Mann, tout en voulant faire comme... en ayant comme point de départ Thomas Mann. Et Perec, qui va être fait passer de Thomas Mann à Perec. c'est comme ça que j'ai lu votre...
Acrobatique.
Voilà, votre roman. Et oui, enfin, la notion de travail qui revient. Et j'ai trouvé... Les passages où vous... Il y a un passage, un chapitre où vous parlez du... de Félix comme un workaholic.
Oui.
Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, derrière, il y a quand même l'écrivain qui passe 2-3 ans sur une enquête à faire pratiquement que ça et qui ensuite écrit un roman dessus. Je me dis, il y a quand même peut-être un effet de miroir sur ces personnages qui...
Oui, complètement. Au passage, on s'identifie à tel ou tel. Quand on n'y parvient pas, d'ailleurs, on fait tout ce qu'on peut pour que ça advienne finalement. Parce qu'il y a des personnages avec qui on a de grandes affinités, d'autres pas du tout, mais ça ne suffit pas, quoi. Il faut quand même que tout le monde, enfin tous les personnages qui interviennent, se trouvent, comment dire, représentés avec le même type d'empathie. Donc parfois, ça me demandait un effort particulier. Je pense surtout à Dorothée Schlegel, avec qui j'ai peu d'affinités au départ, et j'ai fini par en trouver.
Mais elle est fascinante, parce que... Elle est plusieurs personnages en un, il y a plusieurs matières de romans dans sa vie.
Oui, il y a un côté protéiforme, même physiquement. En fait,
oui.
Très difficile de savoir à quoi elle ressemblait, vu que ses portraits sont complètement contradictoires, hein, d'un point de vue physique. Et puis, c'est aussi un personnage qui change de vie et de nom 3-4 fois. Quoi. C'est...
Oui, parce que du coup, mais comment on s'immisce un peu dans ces vies-là, parce que Dorothea, vous auriez pu raconter sa vie de façon très, très linéaire, mais on sent quand même qu'il y a... Il y a un côté d'interpréter, parce que vous interprétez le tableau que fait son fils d'elle.
Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de ces personnages des personnages de roman, ce que je ne voulais pas faire, en fait, j'avais pas du tout le projet d'écrire une sorte de biographie multiple et romancée, c'était pas du tout ça. Je pense que c'est pas à ce niveau-là que se situe le romanesque. Il fallait qu'ils entrent dans mon roman, mais sous la forme qui était possible. Alors là, voilà, je partais des sources que j'avais, qui étaient assez lacunaires. J'ai pas fait des recherches exhaustives et approfondies sur elles. Et en mettant carte sur table par rapport au lecteur, en lui disant, voilà, je procède à partir de ceci et ça, essayer de voir comment un personnage historique peut prendre une épaisseur romanesque ou pas, d'ailleurs. Donc là, je tâtonnais dans ses physiques multiples et ses changements de vie. Et finalement, le matériau est là, tel qu'il est, avec ses creux, ses blancs et ses énigmes.
Quitte à écrire un chapitre entièrement fictionnel sur la rencontre de Dorothea et son père.
Voilà, c'est ça. Donc, sur elle, il y a deux chapitres qui sont... Voilà, il y en a un qui est vraiment... Là, c'est du roman. Celle totalement inventée, une scène fantastique où le fantôme de son père lui revient 20 ans après sa mort. Mais là, je pense que pour le lecteur, il est aussi clair qu'on n'est pas dans du roman historique ni dans de la saga familiale. Et d'un autre côté, cet autre chapitre où je présente un peu mes matériaux en vrac, même si j'ai soigneusement construit pour que ce soit plaisant à lire. Mais en montrant, voilà, je n'ai que ça, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qu'on en retire. Je pense que finalement, on peut en retirer une image assez, bizarrement assez claire du personnage, avec son côté insaisissable. Casse-cou, toujours en rupture avec tout, qui tranche toujours les liens derrière elle.
Et la fille qui a tué le père plusieurs fois.
Plusieurs fois et qui, d'un autre côté, l'adorait. Voilà, oui. C'était la fille préférée de Moses Mendelssohn, le philosophe des Lumières. Et j'essaie de faire passer quand même aussi cette affection par-delà les ruptures religieuses, idéologiques. Voilà, là, je pense que le romanesque est revenu par la fenêtre.
Et il y a deux chapitres qui sont entièrement fictionnels. Il y a celui-ci de la rencontre entre Dorothea et son père. Il y a celui de la rencontre familiale superlative.
La nuit de Valpurgis.
Voilà. Et je trouve que ces deux chapitres sont assez significatifs du point de vue où, concernant la famille Mendelssohn, on a aussi donc le caractère des pères qui jugent leurs enfants, mais les enfants aussi qui jugent leur père, et qui cette famille qui apparaît un peu comme un cercle où on se rejoint, on se recoupe, et se dire qu'il y a...
Parfois on ne se reconnaît plus, parce qu'il y a le vieux Joseph qui ignore complètement que les demoiselles Kinleyside sont ses lointaines descendantes.
Et ce que je trouvais intéressant, c'était parce qu'on s'imagine souvent la famille comme une grande ligne, enfin plusieurs lignes qui seraient méfiées. Et là, vous faites confronter différentes tensions, différentes dynamiques, parce que du coup, vous faites une carte.
Oui, je pense qu'à partir d'un certain degré de ramification, la ligne est complètement perdue. Enfin, d'abord, elle se brouille, ensuite, elle s'abolit complètement. Et donc, dans cette assemblée générale transhistorique, en fait, parce qu'on a là des personnages qui sont nés au XVIIIe siècle et d'autres qui sont... qui agitent leur portable ou leur tablette dernier cri. Oui, c'était aussi une façon de montrer à quel point... enfin de quelle façon finalement les lignées, les cohérences familiales finissent par se rompre à un moment, ce qui donne quelque chose en fait de qui paraissait plus intéressant, du moins d'un point de vue romanesque, qu'il y a là une sorte de vaste règlement de compte.
Oui, parce que le chapitre se termine presque en pugilat, parce que oui, parce que ces gens-là n'ont rien en commun et pourtant on les range dans la catégorie Mendelssohn.
Voilà, enfin on, c'est-à-dire moi en fait. Oui. Parce que le cadre de tout ce chapitre fantastique, c'est quand même moi essayant d'écrire un roman sur tous ces gens-là. Mmh. Alors comment, qu'est-ce qu'on fait avec. Comment on s'en sort avec une masse de personnages qui n'ont vraiment plus grand-chose en commun et qui pourtant sont là au même titre. Ça pose des problèmes d'égalité de traitement, parce que dans le tas, il y a des gens qui sont des célébrités, Félix et Fanny Mendelssohn, voilà, c'est des compositeurs très connus, mais il y a une multitude d'autres qui sont enfin, des monsieur tout le monde, quoi, dont les patronymes sont d'une banalité totale et qui peut-être ignorent eux-mêmes qu'ils sont des descendants de Moses Mendelssohn. Et donc, l'idée de les voir tous ensemble, au coude à coude, dans la même salle et votant. dans des buts d'ailleurs assez mystérieux, on ne sait pas très bien ce qu'ils font là tous, à part se retrouver ensemble, ça me paraissait d'un point de vue romanesque très amusant et fécond aussi, ça faisait sortir aussi des problématiques qui n'avaient pas été posées ailleurs, parce que dans aucun autre chapitre, ils sont là tous présents au même titre, enfin, sauf dans le chapitre où je raconte comment j'ai tracé leurs cartes, que je les ai tous mis sur une sorte d'arbre généalogique spatialisé.
Oui, parce que du coup, puisque vous faites une carte, il y a un concept important, c'est la centralité et les périphéries. Donc du coup, on a les centres, on a Moses, on a Félix, on a Fanny, on a Théa, qui quand même est un centre presque malgré elle. Et après, on a toute cette périphérie qui est plus grosse que le centre. Et comment on fait pour se dire, bon, je vais donner un peu à tout le monde, ou alors non, il y en a que je vais délibérément enlever parce que c'est la vie et que tout le monde ne peut pas avoir sa part du gâteau. Et aussi, il y a les enfants morts en bas âge, le massacre des innocents, comme vous le dites bien. Donc comment on se place, comment on choisit, sans doute par affinité, on se dit, tiens, celui-là, il a une...
Oui, la subjectivité joue un grand rôle dans mon parcours, parce qu'on peut plutôt parler d'un parcours ou d'un voyage que d'un... Comment dire, c'est pas un roman exhaustif sur tous les membres de la famille Mendelssohn. Je pense que ça aurait été illisible et d'un volume propre à faire reculer même mon éditrice. Comment on fait ? Je me laissais porter, en fait, étant donné que je me considérais moi-même comme un peu le personnage du roman, le seul vrai personnage de roman dans ce roman, parce que les autres sont des figures réelles qui échappent quand même à la prise du romanesque. Je me laissais porter, j'aurais jamais imaginé que je poursuivrais jusqu'à l'avant-dernier chapitre cette Ursuline morte en Belgique dont je ne savais rien au départ. Et bon, pourquoi elle? Parce que moi aussi je suis née en Belgique et je suis encore belge, donc bon, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais envie de savoir qui était cette femme, pourquoi elle avait atterri là. Et voilà, bon, ça c'est vraiment, on se perd peut-être dans l'anecdote, mais pourquoi pas, enfin j'ai... C'est un exemple, voilà, un de ces destins.
Oui, parce que c'est
l'aléatoire a joué un grand rôle dans cette histoire. Puis aussi les recoupements, parce que dans une structure un peu comme ça, en rhizome et en réseau, on trouve des nœuds, des courts-circuits. On se dit, ah, mais un tel, finalement, et le frère de choses, tous les deux, ils ont été mêlés à l'affaire de la cassette. Donc, quand il y avait comme ça des nouvelles mailles qui se tissaient, j'étais très excitée donc, par le devenir de ma structure elle-même, plutôt que par le... Ça aurait été infernal si j'étais allée les chercher tous, les uns après les autres. Oui, puis il y en avait qui étaient frappants, quoi. Même sans que je sache exactement ce qui leur était arrivé, celui qui écrit une sorte d'agiographie à la gloire de Frédéric II, et puis qui... Enfin voilà, un Prussien bouillant, et qui en fait file en Amérique du Sud en 1914, je sais pas en quel mois, enfin je sais pas si c'était... Et on avait envie de... Enfin, je me demandais, mais qui est cet homme et qu'est-ce qu'il est devenu ensuite en Argentine, ça, on ne sait plus. Donc ça, c'est aussi... Ça parlait à une romancière, quoi. Genre, c'est une amorce de destin. Donc, à la vie, là, je lui ai inventé des descendants antillais. Enfin, bon, là, on part vraiment dans le fantastique le plus complet, mais c'était...
Puis c'est intéressant de beaucoup parler de la Prusse, parce que quand on lit le roman, on a l'impression de voir ces sortes de cartes interactives, historiques. On voit peu à peu les nations prendre leur indépendance, notamment quand on voit l'histoire de la nation prusse qui devient l'Allemagne, qui s'éclate,
notamment l'Europe de l'Est, on a l'impression d'avoir une sorte de carte de l'Europe de l'Est qui prennent finalement un peu leur indépendance, qui font des frontières, qui coupent les branches.
Oui, et puis les frontières sont mouvantes, quoi. Ouais. Il y a toute une partie de la famille qui est implantée en Silésie, et en fait, bon, voilà, c'est encore des Allemands, mais aujourd'hui, alors chaque fois que je pouvais, je glissais le fait que les noms avaient changé, qu'aujourd'hui c'était la Pologne, parce que c'est quand même un thème récurrent dans mes romans, sur les territoires qui... Enfin, genre, les lieux restent, mais finalement ils sont traversés par l'histoire, ils changent de nom, ils appartiennent à différentes nations, et là évidemment on était au cœur du sujet avec cette partie de l'Europe où les frontières sont particulièrement mouvantes. Mmh.
Et donc c'est intéressant parce que vous faites un roman à plusieurs strates. On a le roman de l'écrivain face à son sujet. On a le roman des Mendelssohn. On a le roman de cette histoire plus globale de l'Europe et son histoire. Et aussi un peu un roman de voyage, parce que c'est un roman entre Paris et Berlin.
Avec entre autres, parce que
oui.
J'étais
pas en train de dire.
Chaque fois que je peux lancer des espèces de perspectives, oui, vers des lieux les plus lointains possibles, je le fais parce que justement. Pour nourrir l'aspect comme ça roman monde, dès que je pouvais citer l'Alaska,
New York, l'Amérique du Sud.
Oui, voilà, Yokohama,
oui,
Osaka.
Oui, il y a un descendant japonais.
Il y a un descendant japonais, et puis aussi des Japonais qui apparaissent dans la rencontre avec Eva Engen, qui est les éditrices des œuvres complètes de Moses Mendelssohn. Donc chaque fois que je pouvais citer justement un nom géographique lointain, je le faisais pour que peu à peu le monde soit là, ne serait-ce que sous forme de nom géographique. Mon rêve, ça aurait été de mettre pas seulement un index des noms de personnes, mais aussi des noms de lieux. Mais mon éditrice m'a déconseillé de le faire, parce que c'était déjà très très fatigant de faire l'index des noms de personnes. Je crois que ça aurait été monstrueusement compliqué d'introduire ça en plus. Mais ça aurait été cohérent.
Oui. Oui,
parce que c'est vrai que la géographie, même comme creuset du romanesque, est très présente. Très très présente.
Oui, vous citez Pérec... Il y a la vie mode d'emploi, il y a aussi un de ces romans qui s'appelle Espèce d'espace,
où
il parcourt différents espaces de sa vie, de la chambre à l'appartement, à la maison, à la rue, à la ville, au pays, au monde, et de se dire que, et en fait, pour finalement dire que c'est l'espace où il est bien, c'est un peu ce devant son bureau et devant sa page d'écriture, et d'avoir tous ces espaces qui s'empilent les uns dans les autres, avoir une forme de... Et de se dire qu'on se reconnaît un peu partout.
Oui, il y a un mouvement, je dirais, centrifuge, quoi, dans tout le roman. Ne serait-ce que par son point de départ, quoi. Voilà, on part d'un homme, d'un philosophe des Lumières qui a vécu au XVIIIe. Ensuite, tous ses descendants, forcément, ça s'éclate, ça se disperse à la fois géographiquement, mais aussi, d'un point de vue humain. Enfin, je dirais, ils sont de plus en plus nombreux. La diversité des positions, ne serait-ce que, je sais pas, politiques, sociales, est de plus en plus grande. Et il y a aussi des éparpillements religieux. Il y a aussi des éparpillements géographiques, comme je viens de le dire. Chaque fois que je pouvais aller plus loin, enfin, m'écarter encore un peu plus du centre, je faisais. Et du coup, c'est peut-être la raison qui explique que j'ai sans cesse besoin de revenir à moi, en tant que sujet, écrivant un roman, ne serait-ce que pour me recentrer, même si moi-même je bouge pendant la rédaction du livre. Enfin, il y a des passages qui sont écrits à Berlin, d'autres... Mais voilà, pour essayer d'avoir quand même un point fixe quelque part. C'est écrit quand même à partir de... C'est moi, aujourd'hui, en tel mois, telle année, qui suis face à cette structure un peu comme ça, mouvante et en pleine expansion, on continue à...
Et oui, non, c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'à la fin du roman, vous retranscrivez un dialogue avec une amie qui vous dit « Attention, parce qu'au moment où on commence à croire que tout est lié, c'est le moment où il faut envisager d'aller voir un psy. » Et vous lui répondez, la narratrice, l'auteur qui est dans le roman lui répond « Non, mais tout est lié. Hein. C'est juste le moment où on commence à croire qu'on est le centre du monde. »
Oui, voilà, c'est ça.
Et donc, est-ce que l'écrivain est le centre du monde?
Ben non, justement, non. Il me semble que... que tout le roman est une fuite du centre, quoi. Je cesse d'aller de ci et de là, et en plus, je veux dire, c'était aussi renoncer à la cohérence. À la fin, il n'y en a plus de cohérence entre tout ça. Ce qui était beau, ce qui était intéressant à mes yeux, c'était justement de renoncer à la synthèse, au bilan. Il n'y en a pas, c'est juste, on se retrouve face à une tranche d'humanité, quoi, étalée sur 2-3 siècles, et finalement, la multiplicité des parcours et des devenirs quoi, dans ces branches familiales est complètement explosée. Enfin, elle échappe à toute synthèse et je trouvais ça beau. Je trouvais ça libérateur, en fait, d'une certaine façon.
Et surtout que vos principaux outils, vous le dites, donc vous avez votre colle et vos ciseaux pour faire la carte, mais il y a surtout Internet qui revient oui. souvent, notamment parce que vous créez une chronologie sur traitement de texte que vous transcrivez dans le roman et en plus en police différente pour qu'on voit que c'est,
oui, oui,
voilà. c'est le travail préparatoire, c'est pas forcément dans le roman, mais il faut quand même le dire parce que ça fait partie du processus.
Oui, ça fait partie d'un autre objet, c'est comme la carte de Mendelssohn elle-même, c'est-à-dire l'arbre généalogique tracé sur des grands papiers, des bristoles assemblés. Et d'un autre côté, effectivement, il y a cette chronologie qui est un objet absolument monstrueux aussi. Là, je ne peux pas le montrer, mais c'est presque aussi long qu'un roman déjà. Ça fait, je ne sais pas, 250 000 signes. Et au mois et jour près, j'ai introduit là-dedans tout ce que je savais sur tous les membres de la famille. En mettant tout ça sur le même plan, comme si c'était un seul niveau. Et ça donnait en soi des résultats extrêmement curieux. Quoi. Ça donnait justement une sorte de... Au début, bon, c'est relativement facile à suivre. Il y a surtout des éléments sur Moses Mendelssohn. Mais peu à peu, à mesure que les membres de la famille deviennent plus nombreux, ça devient un brouhaha. Enfin, tel jour, Arnold a fait ceci. Le lendemain, Félix passe la frontière. Et à la fin, dans les années 30, 40 du XXe siècle, enfin, c'est une sorte de brouhaha oui, stéréophonique.
Vous emmenez à adjoindre des personnes qui ne sont pas dans la famille, mais qui sont proches de la famille, qui Goethe, par exemple, qui apparaît ou qui...
Goethe, ça reste encore assez raisonnable.
Oui, oui,
très
oui.
Proche non, du non, sujet, mais à la fin, on se retrouve avec Mumia Abou-Jamal, parce que ça joue un rôle dans... Voilà, il se trouve que c'est grâce à lui que j'ai obtenu un reportage sur l'hôpital Saint-Louis de Jérusalem, ça ne s'invente pas. Effectivement, chaque fois que je pouvais insérer quelque chose qui avait peut-être aucun lien thématique avec le sujet, mais un lien... quelque chose à effet que j'avais parlé à un tel de ceci et ça m'avait permis de... Voilà, il y avait le côté... Tout est lié. Dans le monde, tout le monde se connaît par un certain nombre d'intermédiaires et donc ça m'amusait beaucoup de voir qu'en fait tout est un peu une sorte de vaste toile où on peut toujours trouver une connexion entre un point et un autre qui paraît très éloigné. C'était un peu le... Et c'est vrai qu'Internet est là un peu en toile de fond, sans mauvais jeu de mots, parce que je pense que j'aurais jamais écrit un roman pareil il y a 15 ans.
Oui, bien sûr.
Je pense que nos structures mentales ont complètement changé. Et on. Je pense, hein. Puis Internet, même, c'est justement un lieu qui est sans centre ni périphérie. C'est un espace très très mystérieux à mes yeux, en tant que spatialité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de centre. Tout est un peu au même niveau.
Et
on se perd. Et il est bon parfois de savoir où on est, c'est-à-dire assis sur sa chaise devant un écran, parce que ça pourrait donner l'impression qu'on est partout à la fois, ce qu'il faut en fait. C'était aussi le roman, ça c'est anecdotique, mais enfin peut-être pas d'ailleurs, mais c'était aussi une façon de me recentrer par rapport à une dispersion de la pensée que je constatais chez moi et qui est peut-être le cas chez tout le monde. Et je pense que c'est dû aussi à ces nouvelles structures mentales qui nous sont venues ces dernières décennies. Et en même temps, ça coïncidait avec mon sujet. C'est aussi un roman sur la dispersion d'une famille. Et finalement, le fait d'aller ramasser la dispersion et en faire quand même une forme romanesque unique, un roman qui commence ici et s'achève là, c'était une façon à moi de me retrouver, de rassembler mes membres épars.
Oui, parce qu'il y a un autre personnage de votre roman, ou une autre strate, c'est la mémoire. Il y a un chapitre qui lui est consacré. 7 plus ou moins 2,
oui.
si je me souviens bien.
Oui, il se trouve que je suis aussi traductrice et que dans les traductions de sciences humaines, j'ai traduit 2 livres sur la mémoire et 1 livre sur l'oubli. Donc c'est un sujet que je connais assez bien et qui, je trouve, est extrêmement... Enfin, qui inspire beaucoup par rapport à la fiction. Je trouve que les espaces de la mémoire, les lieux de l'oubli... Il y a une spatialité dans l'imaginaire... Enfin, le vocabulaire de la mémoire et des espaces mentaux qui est pour moi, je veux dire, je pense que ça a marqué mon écriture d'avoir passé du temps là-dessus.
Il y a un essai de Frances Yates qui s'appelle L'art de la mémoire.
Oui, mais voilà, en fait, un des livres que j'ai traduit, je parlais de 2 livres sur la mémoire, donc le premier c'était Mary Carruthers et elle s'inscrit, elle cite beaucoup Yates. Mais elle étudie une période antérieure, quoi. C'est plutôt la fin du Moyen-Âge, enfin, bas Moyen Âge. J'ai toujours un problème avec le haut et le bas dans, quand il s'agit du temps.
Que... Je ne suis pas historien.
C'est comme la Haute et la Basse-Silésie, j'ai toujours un petit doute. Et en fait, c'était tout ça, enfin, les mnémoniques antiques qui permettent aux rhétoriciens de se trouver leurs arguments. En fait, ils ont
dans une maison.
Une maison, ou alors ils s'imaginent traversant le forum et mettant leurs arguments. Alors, cet argument-là, je le place devant le temple de Mercure. Enfin, je ne sais pas, je ne me souviens plus, hein, je fais des états de mémoire. Mais en tant que romancière, ça me parlait énormément. C'était... Et je pense que la spatialité a toujours un rôle très important dans mes romans, en particulier dans Les Vivants et les Ombres. On parlait tout à l'heure de l'espèce d'espace. Là, c'est une histoire étalée sur un siècle, mais qui est racontée par la maison elle-même, par les lieux, les murs. Et il y avait quelque chose, pour moi, de très fécond dans le fait de faire raconter par un lieu. Et je pense qu'il y a vraiment des liens profonds entre les deux romans, même si, en apparence, rien ne les rattache. Enfin, un tout petit peu l'espace géographique, mais aussi un petit peu... du côté de la Pologne, mais dans le projet, l'approche, il y a quelque chose de... Voilà, trouver une sorte de système narratif qui n'est pas du tout classique, pour y faire entrer finalement l'histoire, la grande histoire, la petite, qui elle est plus classique peut-être dans le roman, mais par un angle d'attaque très particulier.
Oui, parce que il y a un côté... Il y a l'espace du cimetière qui revient assez souvent.
Mais forcément, quand on s'intéresse.
Oui. Oui, mais du coup, est-ce que du coup, votre roman est très joyeux, il y a un effet de jeu qui est très... Qui est
même
très
dans les cimetières, il se passe des choses très amusantes.
Mais il y a un côté aussi de faire côtoyer les vivants et les morts, parce que vous le dites, vous dites, mais il y a encore des descendants qui sont en vie, qui sont plus jeunes que moi, qui peuvent encore m'objecter que j'ai rien à faire ici. Et en même temps, il y a toutes les strates de personnes qui sont décédées depuis Moïse.
Oui, je crois que dans un coin de mon esprit, il y a l'idée que... C'est pour ça que moi, je ne dirais pas les morts, mon autre roman, il s'appelait Les Vivants et les Ombres. Et une des parties s'appelle Mais rien ne meurt jamais. Donc je pense que pour moi, les choses, elles restent. Morts, vivants, tout ça. Enfin, bon, c'est incroyable de voir à quel point Moses Mendelssohn, qui est quand même mort depuis 1786, je crois, a laissé de traces dans ce monde. Alors en fait, ce roman, c'est aussi le rassemblement de toutes les traces qui restent d'un homme après 200 ou 300 ans. C'est incroyable, quoi. D'abord, il y a tous ses descendants, il y a toutes ses œuvres, il y a la postérité de ses œuvres, les lieux où ses descendants ont habité, enfin, le fil en aiguille, les traces d'un homme, ça couvre le monde entier. Et je trouvais ça aussi... Alors, et comme en plus, lui-même s'était intéressé à la question, en réécrivant le Phédon, sur l'immortalité, voilà, ça faisait sens dès le début, quoi, cette idée que, voilà, le mort et le vif, bon, c'est très, 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 très proche, en fait. Hein. Ça s'interpénètre. Et après tout, les cimetières sont des lieux fréquentés par les vivants. C'est fait pour les vivants, c'est bon. Toutes ces belles statues et ces belles épitaphes et pierres tombales, c'est quand même fait pour les vivants, pas pour... Donc voilà. Puis il y a beaucoup d'oiseaux dans les cimetières, des tas de choses. Une faune et une flore très riches.
Oui, donc oui, vous disiez ce qui reste de Moses Mendelssohn. Il y a ce nom, le nom Mendelssohn qui est un peu un fil dans le roman. Puisque...
Et les patronymes, j'ai toujours un rôle très important dans mes romans. Parce que ça aussi, c'est une trace du passé. C'est une sorte d'archéologie qu'on porte avec nous. Voilà, on porte un patronyme, il vient de quelque part, on l'a reçu de quelqu'un, on en change éventuellement. Alors, il se trouve que, vu la période historique et le type de famille dont il s'agit, le nom est particulièrement important. Parce que déjà, Mendelssohn est un nom que Moses s'est choisi, il ne portait pas au départ. Ses enfants l'ont soit gardé précieusement, soit l'ont essayé de s'en défaire. Enfin, c'est déjà, il y a toute une... On pourrait faire le roman rien que sous l'angle des noms de famille, et même des prénoms, d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi qui changent de prénom, comme Dorothea, qui s'appelait Brendan. Enfin...
Oui, puis il y a Abraham qui se défait du prénom de son père, Argan, que c'est ce que son père aurait voulu.
Du nom de son père. Oui. Oui, voilà, avec une sorte d'argument dialectique très, 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 très complexe jusqu'à en devenir, à mon avis, totalement obscur. Oui, voilà.
Il faut vivre avec son temps.
Il faut vivre avec son temps. Donc, lui, en son temps, s'est choisi un nom qui, aujourd'hui, paraît un nom typiquement juif. Mais en fait, non, justement, à son époque, c'était le contraire. À l'époque, il portait... Moi, ça aurait été désigné par le nom de sa ville natale. Et en choisissant le nom de Mendelssohn, fils de Mendel... disait un des auteurs de mes sources, qui lui-même est un descendant, un pas vers l'interculturalité. Et ensuite, une génération plus tard, un de ses enfants n'a de cesse que de se défaire de ce nom Mendelssohn en choisissant un nom qui sonne plus chrétien, et, parce qu'il s'est lui-même converti, et qui serait celui de Bartholdi. Mais la greffe ne prend pas vraiment. Aucun des descendants ne lâche le nom de Mendelssohn.
Oui, Félix,
il s'appelait Mendelssohn Bartholdi, mais personne ne s'appellera Bartholdi tout court. Hein.
Puis, oui, il y a ce nom. Et ce qui, c'est intéressant aussi, il y a Fanny, qui est celle qui s'est mariée, mais qu'on retient toujours sous le nom de Mendelssohn, donc le fait d'appartenir.
Alors, ouais, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il me semble qu'au 19e siècle, on la désigne surtout comme Fanny Hensel. Est-ce que c'est parce que. Ouais, enfin, aujourd'hui, moins. Hein. Aujourd'hui, effectivement, sur les disques, on voit plutôt Fanny Mendelssohn Bartholdi ou Fanny Mendelssohn tout court. Elle a aussi, c'est un de ses destins complexes et un peu contrariés. Elle aurait pu être une compositrice aussi célèbre que son frère, et comme pianiste, je pense qu'elle était. Enfin, apparemment, c'était une pianiste virtuose qui aurait pu faire une carrière artistique au pinacle, quoi. Et voilà, étant une femme dans la bonne bourgeoisie, ça n'était même pas possible. C'est assez tragique, en fait, quand même.
Oui, et dans le chapitre de fiction de la rencontre de tous les descendants, on a une descendante anglaise qui prend la parole pour dénoncer les inégalités entre descendants et qui dit quelque chose de très juste, et que les femmes sont toujours le parent pauvre d'une descendance, puisqu'elles changent de nom, elles prennent le nom de leur mari, et du coup elles changent de statut dans la descendance. Et du coup
Absolument, j'avais nettement l'impression que les gens qui s'intéressaient encore, enfin les descendants qui s'intéressaient encore à la famille, et qui par exemple qui animaient il y a une société Mendelssohn à Berlin, c'était quand même les branches masculines, quoi, où le nom s'est gardé le plus longtemps, alors que dans les descendants qui dès le début descendaient par les femmes, où il y a le plus de changements de nom, c'est aussi les lignées dont on perd le plus vite la trace, quoi. Parfois c'est bon, voilà, ils se perdent dans des masses d'anglais dont on sait plus rien du tout sur eux, et ça aussi ça me paraissait intéressant, parce que d'un autre point de vue, dans d'autres traditions, c'est justement par les femmes que passe la transmission se fait, surtout dans une famille juive. Donc je trouvais ça assez frappant, quoi, que justement les destins les plus éloignés du point de départ, c'est-à-dire si on passe toujours par les femmes, en particulier la descendance de Dorothea Schlegel, née Mendelssohn et épouse Veit, j'espère que vous suivez, c'était fascinant, quoi, de voir à quel point on s'était éloigné des sources, alors qu'on pourrait considérer que c'était justement la lignée la plus importante. Mais voilà, il fallait que quelqu'un le dise, donc j'ai choisi que ce serait les quatre demoiselles anglaises descendantes de Joseph, le banquier.
Oui, elles sont quatre ou trois.
Quatre.
Elles sont quatre, oui, un peu comme un roman à la Brontë. Ou...
Oui, tout à fait.
Oui, non, mais c'est très intéressant, oui, parce que ces femmes-là, elles sont... À la fois elles tiennent quelque chose, mais en plus elles sont clairement à la périphérie, mais en même temps, la façon dont vous les traitez, elles sont quand même très présentes. Il y a Dorothea, il y a Fanny.
Oui, on parlait tout à l'heure de quel fil j'ai suivi. Ben là, c'était vraiment la subjectivité pure. Effectivement, quand j'ai vu ces quatre noms de demoiselles anglaises nées au début du 20e, j'ai tout de suite pensé à un de ces romans anglais où il y a souvent des fratries, enfin je sais pas comment on dit, des sorories. Oui, et ça, évidemment, ça a frappé ma mémoire. Voilà, c'est purement subjectif, mais évidemment, j'ai eu envie d'en faire une scène romanesque avec ça. Et je ne sais pas, finalement, je crois qu'entre-temps, on a de nouvelles sources. Donc, moi, je me suis basée sur certains documents, mais le champ mendelssohnien ne cesse de se développer. Donc, maintenant, je crois qu'on connaît le nom de leurs époux et on a quelques éléments sur leur vie, mais à l'époque où j'écrivais, je ne les avais pas, donc je suis complètement. Laisser aller dans ce chapitre de fiction, en les imaginant brandissant l'étendard d'un certain féminisme, quoi, et de la démocratie qui devrait régir ces assemblées générales.
Oui, parce que chacun est représentatif d'une époque, d'un caractère aussi.
Puis chacun, au même titre, est quand même un descendant du même, donc il pourrait être sur un pied d'égalité, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a des destins parfaitement obscurs sur lesquels on ne sait plus rien. Enfin, parfois j'avais juste une date de naissance, quoi, un nom, une date de naissance, et là c'était merveilleux, parce que
à la limite une date de conversion aussi, mais
Oui, oui, parce que voilà, je me servais d'un CD-ROM généalogique édité par la société Mendelssohn, où ils avaient inséré tout ce qu'ils pouvaient, en particulier les lieux où les uns et les autres avaient émigré, leur date de conversion, les mariages. Parfois, c'était une trame assez mince sur laquelle je ne pouvais pas m'empêcher de broder, ne serait-ce qu'en pour moi, quoi. Donc c'est une toile qui, par endroits, est presque translucide à force d'être fine. À d'autres endroits, j'ai surajouté, j'ai brodé, rebrodé. Il y a beaucoup. Il y a toutes sortes de métaphores qui s'entrecroisent. Il y a la métaphore du fleuve, la métaphore de l'arbre, mais aussi la métaphore du tissu et du textile.
C'est ce qui est intéressant parce que ça fait une toile, une sorte de tableau un peu mouvant et avec des personnages plus grands que d'autres. Vous parlez de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Essayer de joindre les deux et de ne pas trop se perdre ni dans l'un ni dans l'autre. Et de se dire qu'après tout, écrire pour faire du lien entre ce qui en a plus, ce qui en a plus, et ce qui peut en ravoir.
Oui, finalement, le lien, il finit par bien se tisser, ne serait-ce qu'un lien narratif, quoi, entre les éléments qui se sont complètement éparpillés, éloignés, et finalement les mettre tout ça dans le même roman, ou en tout cas dans le même récit, ça finissait par redonner trame, quoi, redonner une forme de cohérence à ce qui n'en avait plus. Mais c'est une cohérence qui n'est pas... Comment dire... Ah, je trouve plus ma... Mais c'est simplement une cohérence de l'œil, quoi. Oui. Il n'y a plus de cohérence. Il me semble que le constat final, c'est que, bon, une famille, si vous la suivez pendant 7, 8, 9 générations, ça finit par... Voilà, c'est comme un fleuve qui s'ouvre en delta et qui rejoint la mer, quoi. Voilà, tout le monde, le maillage de l'humanité est tellement... que ça n'a pas de sens de continuer à voir des familles, alors qu'il y a simplement des générations en marche qui font je me perds dans ma propre métaphore.
Oui, bon, on avait commencé l'entretien en parlant de Thomas Mann, qui aurait sans doute écrit la famille Mendelssohn, les Mendelssohn. Et là, on est passé à la carte des Mendelssohn, sur cette famille qui devient une carte et qui remet en cause toujours l'idée de famille, en fait, finalement.
C'est vrai que les Buddenbrook, c'est plutôt un entonnoir, quoi. Ils sont de moins en moins nombreux et à la fin, il y a le jeune garçon qui trace un trait en bas de son nom en disant « Je pensais qu'après moi, c'était fini. » Ce qui sera d'ailleurs le cas, il meurt... je ne sais pas, 12-13 ans d'une méningite. Là, c'est vraiment c'est tout le contraire. Quoi. Oui. Ils sont de plus en plus nombreux au point qu'on les perd de vue. Ils disparaissent de l'autre côté de la Terre. Mais je pensais aussi à Joseph et ses frères, en fait, qui étaient vraiment que j'adore, que j'avais relu pendant que j'écrivais le roman précédent, en fait, Les Villes de la Plaine. Donc ça restait bien assez net dans ma mémoire. Mais je l'enviais parce que lui, il n'avait que quelques petits chapitres bibliques pour broder. Moi, j'avais un espace qui était déjà saturé de documents, de lettres, d'articles et d'ouvrages. Et donc, moi, j'avais plutôt un problème il fallait lâcher beaucoup d'éléments. Au lieu de les inventer, de tisser du romanesque à partir de presque rien, il fallait, bon, au contraire, que je sélectionne soigneusement les petits faits, ou les axes thématiques qui pourraient entrer. En fait, le roman aurait pu être beaucoup plus long. J'ai dû lâcher énormément d'éléments qui étaient dans ma chronologie et même dans la version finale du texte, elle était quand même, j'ai dû retrancher, je sais pas, 100 000 signes par rapport à ma dernière version.
Ah oui.
Il y a encore beaucoup plus de digressions et de sauts de côté.
Non, mais c'est ce qui est très beau, parce qu'à la fois, vous vous permettez de faire des digressions, de parler d'autre chose.
Mais c'est le sujet, en fait. C'est perdre dans tous les sens, s'éparpiller avec passion. Donc, je n'ai pas tout laissé, parce qu'il ne fallait pas non plus que le lecteur soit... Je ne voulais pas qu'il soit trop bousculé, qu'il puisse suivre. Mais de temps en temps, je laisse des digressions, soit parce qu'elles vont faire sens plus tard, hein, même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, soit parce que simplement elles sont drôles. C'est quand même un livre aussi très gai sur le... Il y a quelque chose de... Ça aurait été sinistre, quoi, que je fasse un livre... un livre tri sur un... Comment dire... Le point de départ lui-même est ludique, donc il fallait aussi qu'il y ait de la gaieté et que le lecteur s'amuse. Mais quand on est trop perdu, on ne s'amuse plus, on ne sait plus où on va. Donc, quand je m'autorise comme ça des jeux sur des digressions, c'est une sorte de pause, quoi.
Oui.
Je pense qu'après, on revient sans trop de mal.
Oui, tout à fait, oui. Parce que du coup,
Puis il y a des digressions, voilà, elles semblent aller très très loin, mais simplement parce qu'on fait un grand tour et après on revient au point de départ. Et finalement, c'était parfaitement dans le sujet.
Oui, parce que je parle pas de la fin, mais pour essayer de faire une boucle, essayer de... c'est ce qui est le plus dur en fait, parce qu'une fois qu'on est allé très loin, comment on regarde et on se dit mais comment je reviens, comment...
Surtout que comme je me racontais écrivant le roman, il y avait le risque que je n'arrive jamais au bout, puisque voilà, le paradoxe de Zénon, quoi. Ça aurait pu être, je veux dire, une sorte de tension vers l'infini, mais finalement, la boucle se boucle de façon presque naturelle, quoi. Ça se fait sans moi. Hop, brusquement, j'ai sauté le petit fossé qui restait encore ouvert, et on y est.
Et parce que du coup, après avoir lu le roman, comment on se sépare de...
Ben, je n'en suis pas encore là, je suis encore plein dedans. C'est très difficile de sortir d'un livre pareil. Non, le sujet, d'ailleurs, reste ouvert et, oui, et vivant. Quoi. Nelson, il continue à... Enfin, j'en découvre de nouveau, même depuis que le livre est paru. Donc, mon sujet de roman, lui, il reste parfaitement... il n'est pas du tout clos. C'est moi qui, à un moment, devrais peut-être m'en séparer. Mais voilà, ce moment n'est pas encore venu. Jusqu'où irai-je ainsi dans l'infiniment petit, l'infiniment secondaire? Jusqu'où éprouverai-je le besoin de détailler ma carte? Pouvoir zoomer sur chaque descendant, comme l'avait promis Henri, me paraissait déjà presque dérisoire. J'aurais voulu scruter chaque recoin de leur vie, examiner à la loupe les originaux de leurs lettres, pour y déceler peut-être une infime rature, l'amorce d'un mot qui n'avait pas été écrit. Voir ce que cachait le linge blanc dans la corbeille à ouvrage du salon de musique de Fanny Henzel née Mendelssohn Bartholdy, ou rechercher de qui étaient ces tableaux au mur et quels étaient leurs thèmes pour me faire une idée exacte de ce que Fanny de son vivant avait eu sous les yeux pendant qu'elle composait. C'est alors que j'ai pensé à la vie mode d'emploi, et non sans inquiétude. Car si Perret, qui avait exploré l'infiniment petit d'un immeuble haussmannien, de ses habitants et de son mobilier, jusqu'à décrire les sujets développés à traits de pinceaux microscopiques par la miniaturiste autrefois installée dans l'appartement du 6e étage droite, ces détails étaient fictifs, donc finis, s'arrêtant là où s'arrêtait la fantaisie de l'auteur. Et son exploration suivait un rigoureux itinéraire algorithmique, celui d'un cavalier parcourant successivement les 64 cases d'un jeu d'échecs. Le territoire que j'avais choisi, moi, n'avait pas les contours nets d'un échiquier ni d'un immeuble haussmannien. Fait de vie réelle, il tenait plus du massif corallien, proliférant en tous sens et continuant de s'agrandir année après année. Depuis que je m'occupais de Mendelssohn, combien d'enfants avaient dû naître, ne serait-ce que chez les 240 descendants présents à la rencontre berlinoise d'octobre 2007 ? Et je m'y étais lancé à la sauvage, sans la moindre idée de but à atteindre ou de cap à tenir. J'étais en train de me perdre dans ce dédale, de me perdre absolument. Non pas comme l'aventurier qui ne trouve plus son chemin et désespère de ressortir un jour à l'air libre, mais comme celui qui a bel et bien oublié l'air libre, en vient à penser que sa vie est là, dans ses sombres boyaux, et au lieu d'avancer en se tenant toujours au mur de droite, pose son barda par terre, éclaire la paroi peinte et s'absorbe bien heureusement dans l'étude des pigments.